Bonjour, toujours à l'écoute de Radio Méga, bienvenue sur Underscore. Qui sont ces machines? Des choses étranges si similaires et pourtant totalement inconnues, on vous le fait découvrir. Tendez une oreille attentive.
Bonjour Mimiman, bonjour Doudou, bonjour Mabel.
Oui, Cécile.
Salut tout le monde.
Hello.
Bonjour les auditeurs de Radio Méga. Et oui, si similaires et pourtant tant pas connues. Nous allons ouvrir une porte du passé et pas n'importe laquelle, celle qui concerne l'univers informatique suisse roman.
Ah ouais.
Bien particulier. Mais avant, un peu d'actu.
Bah qu'est-ce qu'on a?
La version Rust de Dunitaire arrive. L'implémentation originale de Dunitaire, le logiciel faisant tourner la monnaie libre, je sais pas comment ça
la
se
June.
Prononce.
C'est ça.
La June. Était en Node.js, mais depuis quelque temps, une nouvelle implémentation était développée en Rust.
Ouais.
Moi j'ai un problème, j'ai pas ça.
Ah. Alors, l'Union européenne se met enfin d'accord sur la directive pour obliger l'USB-C sur les chargeurs, dont les débats ont commencé en 2018, hein. Même pour Apple. Enfin bon, Apple donc...
Ouais. T'as retrouvé le pad, Matt Bell?
La révision... Non, continue.
Bientôt la fin d'Atom. Non, on ne parle pas du dernier Atom de l'univers, ça c'est pas pour tout de suite, mais de l'éditeur en JS tournant sur son propre OS. Enfin... Electron. La fin est donc annoncée pour le 15 décembre prochain.
On écoute Oxygène Nostalgique de Desire.
Comme ça, Matt Bell aura le temps de retrouver le pad.
Ouais, non, je suis update.
Ah, okay. Pas de souci. Et on se retrouve pour le sujet du jour, le Smacky. Oxygène Nostalgique Tripe de Desire. Donc c'était une musique issue d'une démo Atari 8 bits qui a été finie première place à la Sileventure 2020.
Ouais.
Et maintenant, nous allons nous retrouver pour notre sujet du jour, le Smacky, un ordinateur suisse roman, le joyau historique des années 70 à 90, présenté par Laurent et Stéphane, membres du club OCCC. Donc OCCC, hein, donc les acronymes sont de Old Computer and Console Club, qui nous avait accueillis les 4 et 5 juin dernier à Martigny lors de la Ouf Party. On écoute le reportage.
On va faire le tour des Tsumaki depuis le tout premier jusqu'au tout dernier.
Ici, il y a des câbles plats comme ça qui passent d'une carte à l'autre. Et ben, le Tsumaki, en fait, au départ, c'était ça. Et il avait designé un système avec un Intel 8008 qui démarrait. Et puis après, il disait qu'il interfaçait d'autres cartes avec, mais qu'il n'y a pas forcément une différence sur la carte de démarrage. C'est plus sur les cartes d'écran où il faisait quelques évolutions. Et puis là, ça c'est une carte processeur, donc, qui est câblée à la main. On le voit bien ici avec les petits fils. Ça, c'est des fils de bobinage de transformateur à l'époque. Oui. Ils utilisaient ça. À partir d'une certaine température, ils s'étaient aperçus que l'isolant autour, il fondait. Alors, ils chauffaient juste assez pour que l'isolant fonde et puis qu'il puisse le souder.
D'accord. Oui, non, mais le Crocus, oui, c'est de 1976, donc c'est déjà beaucoup plus calculatrice qu'ordinateur à l'époque.
C'est beaucoup plus calculatrice. D'ailleurs, le laboratoire du professeur Nico, à ce moment-là, s'appelait encore le laboratoire calculatrice digitale. Il a changé en 1980, où il s'est appelé le laboratoire de l'AMI, le laboratoire de micro-informatique. L'appareil qui s'appelle le micro-LERU, c'est un lecteur de bande papier, c'est une invention. Le professeur Nicou, il revendique cette invention et c'est la seule qu'il revendique, qu'il a vraiment inventé de A à Z. Le reste, il dit qu'il a pris des idées à gauche et à droite pour faire ce qu'il a fait. Mais ça, il l'a vraiment fait lui-même. Ici, il a programmé un petit écran pour qu'on puisse tirer la bande et que ça affiche ce qu'il y a sur la bande. Sur l'écran.
Un lecteur de cartes perforées, quoi.
C'est un lecteur de cartes perforées, exactement. Puis ici, on a au-delà du lecteur de cartes perforées. Ça, c'est l'imprimante qui va avec. Et au laboratoire de micro-informatique, ils en avaient une qui s'échangeait les uns aux autres. Parce que pour programmer sur les Tsumaki qui n'avaient aucune mémoire de masse, ils avaient un ordinateur beaucoup plus performant qui s'appelait Nova derrière. Ils reliaient la perforatrice de cartes au Nova. Et ensuite, ils prenaient leur bande de papier et ils les chargeaient sur le Tsumaki pour voir si ça fonctionnait ou pas. Oui, ça, c'est vraiment l'ancêtre du disque dur, en fait. Sauf qu'il n'est pas réeffaçable, c'est comme ça. Ils ont même fait des concours, ils nous racontaient hier, ils essayaient de passer la bande papier le plus rapidement possible dans le lecteur pour voir s'ils arrivaient à avoir des erreurs de lecture. Ça arrivait de temps en temps, mais ils ne sont jamais arrivés assez rapidement à tirer pour vraiment pas arriver à lire la bande. Si j'enlève ça, ici, on a le Tsumaki 4. Celui-ci, il a déjà eu un boîtier. Il a un lecteur de cassette qui est venu un peu plus tard que la carte mère. Le lecteur de cassette, pour simplifier les mécanismes, ils l'ont fait en trois parties. Une partie qui lit, une partie qui écrit et une partie qui permet de rembobiner la cassette.
On dirait une cassette de répondeur.
C'est une cassette de répondeur. C'était beaucoup plus économique et plus réduit. Donc ils l'ont fait comme ça. S'il avait fallu faire le même mécanisme avec une grosse cassette comme on a sur les Commodore, par exemple, il aurait fallu beaucoup plus d'encombrement et c'est beaucoup moins pratique. Jusque là, c'est tout petit. Ça, c'est absolument prodigieux. Ça s'appelle un scribe. C'est un voyage que le professeur Nicou a fait avec un monsieur qui dirigeait une entreprise qui s'appelait Bob's Graphics et qui faisait des ordinateurs en Suisse. Et ils ont discuté de se dire, ouais, on pourrait faire un ordinateur qui serait pratique pour les journalistes, qui puissent, quand ils voyagent, écrire leurs articles et puis directement les envoyer depuis les quatre coins du monde par téléphonie à leur rédaction. Donc, ils ont développé une carte mère, un ordinateur. Au départ, ils ont pensé à mettre une batterie dedans, donc il est capable de fonctionner de manière totalement autonome. Ensuite, ils ont mis une petite imprimante avec du papier photosensible dessus. Ils ont développé un coupleur acoustique sur lequel on peut mettre un téléphone. Et en fait, en 1977, ils avaient le premier ordinateur plus ou moins portable. Autre particularité du scribe, c'est qu'ici, l'écran, il est à l'envers, on ne le voit pas directement, on le voit via un miroir. Et le miroir, normalement, il est concave. Pour agrandir les caractères et les voir mieux.
Ça ressemble vraiment à une machine à écrire, en fait.
C'était le but. C'était une machine à écrire, mais qui permette d'envoyer vraiment des articles de journaux. C'était destiné vraiment aux journalistes. Après, les journalistes, ils n'ont pas accroché là-dessus parce que ça avait peut-être beaucoup trop d'avance à l'époque. Bob's Graphic en a vendu quelques-uns. Après, ils ont fini par abandonner. Ils ont revendu ça à une petite société française qui a vendu le reste du stock. Et ici, on a le Dauphin. C'est une petite carte processeur très pratique. On peut trouver plusieurs processeurs. Il y a un 68000, il y a un 6802. Et puis on les programme ceci, on peut les programmer directement avec les petits switches qui sont sur les cartes. Et c'est le meilleur moyen en fait d'apprendre à programmer en assembleur. Le fait étant qu'on voit chaque adresse, chaque donnée, ce qui peut se passer dessus et on peut lire vraiment chaque partie des cartes. Ça c'est particulièrement intéressant et il y a beaucoup de gens qui ont développé ensuite les Tsumaki plus loin ou d'autres systèmes qui ont commencé sur des Dauphins. Et d'ailleurs celui qui a le tout premier Dauphin qui s'est vendu, il a développé ensuite les interfaces graphiques du Tsumaki, il a développé beaucoup de logiciels pour les Tsumaki, histoire dit que lui, il faisait une école d'ingénieur et puis bon, ça lui plaisait pas trop. Il a découvert cette publicité pour le Dauphin, il a insisté auprès de ses parents pour en avoir un, ses parents ont accepté, il en a eu un et à partir de là, en fait, sa vie elle a un peu changé. Il s'est fait engager par le laboratoire de micro-informatique parce qu'il lui avait trouvé un peu du talent pour arriver à bien programmer. Le professeur Nicou dit qu'ils l'ont engagé au tarif à l'époque d'une femme de ménage. pour pouvoir programmer, ils n'avaient pas plus de moyens que ça. Et puis c'est là où il a commencé à vraiment développer. Et ce monsieur aujourd'hui, il a fait toute sa carrière dans l'informatique et au final, il n'a pas vraiment de diplôme en informatique, il n'a rien. Mais par contre, c'est un des meilleurs programmeurs qui m'ait eu été donné de rencontrer à moi.
Oui, comme quoi les autodidactes ont aussi leur chance.
Et alors les autodidactes ont aussi leur chance, et le professeur Nico et son épouse, ils avaient eux vraiment l'art pour les repérer et les trouver. En fait, il y a beaucoup d'autodidactes qui ont fait des choses très étonnantes ici. Ici, si on prend le Smaky 6, ça c'est le premier Smaky qui s'est vendu. Donc le professeur Nico, il avait fabriqué 20 Smaky 4, et ensuite il était parti sur l'idée du Smaky 6, et puis son épouse, elle s'est dit que ce serait intéressant à vendre pour les écoles, parce que ça devenait intéressant dans les écoles d'avoir des ordinateurs. Et donc, son épouse a créé la société Epsitech, qui est encore active aujourd'hui, mais dans le domaine des logiciels de gestion financière, principalement. Là, il s'en est vendu bien quelques-uns. Ils en ont fait un boîtier, un ordinateur. Il y a un système d'exploitation assez bien fait. Il y a plein de petits logiciels. En l'occurrence, il y a le Flipper. C'était les premiers qui avaient des lecteurs disquettes aussi, en 1978. Après, ils ont eu des disques durs dessus.
Ça fait comme une grosse station avec un écran vert, un petit peu comme ceux qui sont en bas, là.
Exact, oui. Oui, oui. C'est la même période, en fait. Hein. C'est venu juste après. Ça fonctionne sur un Z80. Et c'est assez efficace, c'est assez bien conçu. Il y a un port extension qui permet de faire énormément de choses dessus, qui est le port Mubus, qui est resté après, qui existait déjà depuis les premiers, puis qui est resté après jusqu'au dernier. Et c'est assez intéressant comme machine. On travaille beaucoup dessus depuis quelques temps. Ouais.
On est vraiment au même niveau, à une année près de ce que faisait Commodore avec le PET, avec le TRS-80, et puis avec Apple, l'Apple II d'Apple, qui était considéré comme la trinité des premiers véritables ordinateurs grand public qui ont lancé l'informatique. Et eux, en Suisse, avec le Smaky 6, ils étaient carrément au niveau de ces machines, voire même un petit peu plus loin, parce que là, tu as quand même une machine complètement intégrée. Tu as un écran, tu as deux lecteurs disquettes sur la configuration, tu as un clavier. On rappelle quand même que l'Apple II, il était livré sans mémoire de masse du tout. Tu devais toi-même fournir ton lecteur de cassette, et c'est seulement plus tard, je crois en 78, sauf erreur, que le disque 2, avec le contrôleur interne, est arrivé pour que les gens puissent avoir un lecteur disquette. Là, on avait un système complètement intégré avec un système d'exploitation propriétaire, dédié, avec un basique. Et ils s'en servaient, en fait, pour des applications plutôt scientifiques, toujours dans les universités. Mais ça a vraiment été la première machine commerciale de Smaky.
Ah, le Smaky 6 en version ordinateur portable.
C'est ça. Ça, c'est une pièce vraiment unique, dans le sens que lui, il faut savoir que Nico, son rêve a toujours été de faire un portable. D'ailleurs, Smaky, ça veut dire Smart Keyboard. Son but, c'était d'avoir l'ordinateur dans le clavier. C'était un peu la vision de l'Amiga, de l'Atari, mais avant l'heure, avant même que ça existe. Et lui, il a toujours été obsédé pour faire une version portable. On l'a vu avec le Scribe avant. Hein. Oui. Là, le but du jeu, c'était vraiment d'avoir quelque chose de transportable pour pouvoir communiquer, pour envoyer des textes. Bah, là, il a complètement intégré un Smaky 6 avec un écran cathodique qui est tout petit, le clavier rabattable, et il a fait faire un boîtier sur mesure. Ça, c'est une pièce unique. C'est pas un produit qui a été vendu.
Ça ressemble vraiment à un espèce d'oscilloscope avec clavier et puis entre l'oscilloscope et le poste de radio quelque part.
C'est ça, on est vraiment encore dans cette technologie là. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tout était fait à la main. Même les boîtiers, quand ils ont choisi les boîtiers pour faire les versions commerciales, là du Smaky 6 et ici du Smaky 8, ben, ils ont cherché d'aller au plus simple, ce qu'ils pouvaient faire eux-mêmes avec les moyens qu'ils avaient à disposition. Et il se trouve qu'il y avait une personne dans le groupe qui était capable de plier de la tôle et qui avait les moyens mécaniques de faire la peinture sur la tôle. Ils sont partis sur des boîtiers complètement en tôle. Ce qui donne des machines qui sont extrêmement massives. Finalement, c'est pas si mal parce que c'est des machines qui étaient destinées à l'éducation. À partir d'ici, on a une nouvelle génération qui commence, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle du Smaky, mais il y a deux branches du Smaky. Il y a la branche, on va dire, 8 bits, où on s'est arrêté au Smaky 6. Il y avait vraiment énormément de logiciels sur Smaky 6, mais à un moment donné, ils ont compris qu'il fallait évoluer, aller plus loin. Le nouveau processeur Motorola 68000 est arrivé. Le professeur Nico a commencé à regarder sur les différentes possibilités pour évoluer plus loin. Ils ont commencé à faire des prototypes avec du biprocesseur, avec du Z80 et du 68000. Et finalement, ils sont partis sur l'idée de faire une machine complètement sur du 68000. Et ça, c'est le tout premier, c'est le Smaky 8. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette machine possède une interface graphique. Alors ça, je te la montre après sur le Smaky 130, ce sera beaucoup plus simple à voir. Mais en l'état, on est vraiment sur une machine qui est sortie en 1983, c'est-à-dire on est quand même une année avant le Macintosh, la même année que le Lisa, c'est pour ça qu'on a posé le Lisa à côté. Les deux sont apparus avec une interface graphique. On cite souvent le Lisa comme étant le premier, en fait c'est pas le premier, le tout premier c'était l'Alto. Avec Xerox, après quand ils ont fait le Xerox Star, la version commerciale, mais c'était en 83, donc c'était cette année-là. Et chez Smaky, ils avaient aussi une interface graphique. Alors différente, tu la verras après comment elle fonctionne, mais une interface graphique quand même. Ça, c'était plus ou moins, on va pas dire un prototype, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont été construits, mais enfin, c'était gros, c'était cher, c'était pas pratique. Donc à un moment donné, ils sont partis sur l'idée qu'on doit faire une version low cost, en tout cas pour l'époque, qui permettait de diffuser ces machines dans les écoles. Et ça, c'est devenu le Smaky 100. C'est la machine qui est ici. Donc le Smaky 100, on commence avec des claviers qui sont localisés. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les claviers là-bas, c'est, en fait, c'est des claviers de terminaux VT100. Là, le clavier est localisé, donc tu peux réellement l'utiliser pour faire du traitement texte. Tu as un écran monochrome en 640 par 400 pixels, ce qui est supérieur au Macintosh qui est sorti à la même année. Ça, c'est une année plus tard. Tu as une souris.
Alors, ce qui est assez drôle, c'est que ta souris, c'est une demi-sphère.
Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette souris, c'est la souris d'Epra. C'est en réalité la première souris commerciale du monde. Le professeur Nikou n'a pas inventé la souris, mais c'est lui qui a inventé le concept de la souris avec une boule en dessous. Ça, il faut le savoir. On dit souvent que la souris est née en Suisse. Partiellement vrai, parce que c'est pas lui qui a inventé le système de la souris, c'est Doug Engelbart qui a inventé la souris. Doug Engelbart, il avait en fait deux roues qui étaient sur le X et le Y. Et puis quand on faisait bouger le boîtier sur la table, ça faisait bouger ses roues. Et c'est ce qui permettait d'avoir les mouvements en X et Y. Et puis le professeur Nikou, il a dit c'est pas mal, mais enfin on peut faire beaucoup mieux que ça. Il a demandé à son équipe d'ingénieurs, qu'ils avaient à disposition à l'EPFL, de créer un système avec une boule qui, elle, va entraîner les axes qui sont à l'intérieur, ce qui donne quelque chose de beaucoup plus fiable, et puis surtout avec beaucoup plus d'amplitude.
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir par rapport au laboratoire de micro-informatique, c'est que dans le laboratoire, il y avait à l'époque un horloger qui travaillait avec tout le matériel d'horlogerie qui allait avec. Donc, quand le professeur Nikou il avait une idée de faire quelque chose, c'est en l'occurrence son horloger qui travaillait sur les mécanismes qui étaient dedans. Et ça, c'était M. Guignard qui travaillait dans ce laboratoire. Et ils ont été jusqu'à fabriquer dans le milieu des années 90 un petit robot d'un centimètre cube qui se déplace tout seul dans un espace sans jamais toucher quoi que ce soit nulle part. C'est ce qui a permis beaucoup de choses. Les boîtiers des Smaky aussi, c'était aussi un ami du professeur Nikou qui les faisait, et le monsieur était professeur de travaux manuels dans les écoles primaires, et du coup il est fabriqué comme ça.
Ce qui est assez drôle, c'est finalement ce clavier, il est vachement coloré. On a des touches qui sont les touches de fonction rouge, verte.
C'était une idée du professeur Nikou d'avoir des couleurs comme ça. J'imagine que c'est pour les repérer plus facilement quand on les regarde, tout simplement. Ça ne doit pas chercher plus loin que ça.
Oui, c'est une histoire d'ergonomie en fait.
Oui.
Ce qui est intéressant avec cette souris, cette fameuse souris d'Epra, c'est qu'ils l'ont déclinée plus tard en plusieurs versions. Et là, par exemple, tu as une version Amiga.
D'accord.
Mais c'est vraiment la souris du Smaky qui a tout simplement été... Et elle fonctionne, hein. Elle est totalement fonctionnelle. Simplement, au niveau du connecteur, tu as un DB9 que tu peux utiliser sur un Amiga. Alors, mon fils appelle ça la souris patte de chien.
Ça, c'est... Ah oui, parce qu'il y a trois boutons. En fait, c'est déjà trois boutons à l'époque.
Oui. Le Smaky, alors le système du Smaky, je te le montre après sur le 130, est vraiment basé sur l'utilisation des trois boutons. C'est vraiment... Le Smaky, c'est l'antithèse du Macintosh. Apple a voulu faire au plus simple un bouton, parce que sinon c'est trop compliqué. Le boîtier le plus compact possible, le plus design possible. Ils ont mis beaucoup d'emphase sur la présentation. Le Smaky, c'est exactement le contraire. Le boîtier, c'est... il fallait un boîtier, donc on a fait un boîtier. Ils ont beaucoup plus mis l'accent sur la partie logicielle. Après, il y a eu des évolutions des machines. Donc, on a le Smaky 324, qui est une machine plus performante, parce que là, on a 4 mégas de RAM et un 60020 comme processeur. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est une machine qui a été pensée pour utiliser un écran A4 vertical, comme on voit sur la photo. Pour de la PAO, tout à fait, ouais. Il y a de très bons logiciels de PAO qui étaient disponibles sur le Smaky. Après, on a une version 196 qui est ici. Alors, on l'a appris hier pendant les discussions avec les concepteurs du Smaky qui étaient là. Parce que finalement, tu vois, on a le Smaky 100, on a le Smaky 300. On s'attendrait à celui-ci, à ce qui s'appelle le Smaky 200. Alors, en fait, il y a un privé joke là derrière. C'est que le professeur Nikou ne voulait absolument pas avoir quatre éléments sur cette carte mère. Il ne voulait pas de MMU, il ne voulait pas de FPU, il ne voulait pas d'interface réseau complexe et il ne voulait pas de couleur. Donc les ingénieurs, pour le charrier, ils ont dit « puisque tu veux ces 4 trucs au moins, on va enlever 4 chiffres à 200, puis ce sera le Smaky 196 ».
À savoir que c'est un ordinateur qui a été utilisé uniquement à l'EPFL, il y en a eu 50, c'était pour les étudiants. Et en fait, ils s'amusaient à mesurer des signaux en créant des courts-circuits un peu partout sur la carte mère, en expliquant, il y avait les professeurs qui étaient là en train de leur dire « Oh, vous pouvez faire un court-circuit là, c'est bon, tu regardes, tu surveilles ce que ça passe, tu risques rien, c'est bon ». Alors c'est des cartes mères qui ont été vraiment utilisées pour de l'expérimentation.
D'accord.
Et juste à côté, il y a des petits boîtiers ici qui s'appellent les logidules. On les voit un petit peu sur Internet, c'était ce qu'ils utilisaient à l'école. C'est aussi une invention du professeur Nikou. On a chaque fois des composants dedans. Ici, ça, on a un 8254 par exemple. En bas...
on a des petits connecteurs.
C'est un peu comme des Legos, là.
C'est un peu comme des Legos, en fait. En bas, on a des connecteurs d'alimentation. Ici, les connecteurs qui sont en haut, ils sont liés directement au composant qui est à l'intérieur. On pouvait rajouter des fils pour aller d'un endroit à l'autre quand on en avait besoin. Et puis avec ça, on arrive à apprendre l'électronique avec une rapidité absolument exceptionnelle. Et puis ici, on a l'interface MUBUS qui se branche directement au SMAQI et qui est reliée directement au processeur après, qu'on peut programmer directement dessus. Et avec ça, on peut par exemple montrer les compteurs des souris, on peut créer des mires sur des écrans sans même avoir un ordinateur.
Il y a une anecdote amusante aussi, si tu regardes la carte mère, tu vois qu'ici il y a un emplacement prévu pour l'alimentation. Mais en réalité, elle n'a jamais été placée là. Comme il a dit Laurent, cette machine était vraiment prévue pour les étudiants à l'EPFL. Et à la base, le professeur Nicou voulait mettre l'alimentation de 101 volts ici. Mais comme leur but était aussi de faire jouer les étudiants là-dedans, à un moment donné...
Oui, une alimentation disponible, ça risque de faire des étincelles.
Lui voulait vraiment avoir le 220 volts là-dedans. Et puis la sécurité de l'EPFL a dit non, ça ne va pas être possible. Donc du coup, ils ont créé l'alimentation en externe. Et il y a toujours la place qui existe sur la carte mère, mais elle n'a jamais été peuplée.
Il n'a aucune interface pour un lecteur disquette ou pour un disque dur ou pour quoi que ce soit. Il est prévu uniquement pour démarrer du réseau sur un serveur. Et il voulait tellement économiser de la place que même le connecteur pour la souris se trouve à l'intérieur du boîtier. Par contre, le truc rigolo qu'on a appris hier, en fait, moi j'en ai remonté un la semaine passée et je l'ai fermé. Et c'est probablement le seul qui a jamais été fermé. Ils n'ont jamais mis une vis pour fermer le boîtier. Le but étant de faire des études et de rechercher dedans. Ils n'ont jamais fermé des boîtiers. Ils n'ont jamais fait des boîtiers fermés pour. Alors ça tient dans le clavier, presque, parce qu'il doit être rehaussé le clavier. Ça, c'est l'ordinateur de laboratoire, purement. Et puis à côté, on va se retrouver au SMAQI 300. Le SMAQI 300, lui, c'est le vrai smart keyboard, le clavier intelligent. C'est la seule carte mère de SMAQI qui passe réellement dans le boîtier du clavier. Sans aucune modification, elle est dedans ici.
D'accord.
On a sur le SMAQI 196. Sur le 196, il est rehaussé. Par contre, sur le 300, il n'y a pas besoin de rehausser. Et la carte mère est suffisamment petite pour aller dedans. Et le 300, c'est aussi le seul SMAQI qui affiche la couleur sans avoir de carte graphique.
Ah, t'as vraiment deux machines. Hein. T'en as une qui est dans son boîtier tel quel. Et effectivement, ils en ont fait dans des versions, dans des boîtiers métalliques, tout simplement pour être capable d'avoir des unités.
Le lecteur disquaire.
C'est ça. Mais si, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'EPFL, ils avaient des serveurs centraux. Le SMAQI étant capable de booter à distance sur un serveur central sans avoir besoin d'unité de stockage directement dans la machine.
Du coup, là, on est plus dans les années 90, où on commence à, dans l'univers PC ou Mac, on avait aussi ces mêmes périphériques qui étaient déjà existants aussi.
C'est ça.
SMAQI 300, il a une particularité, c'est que le lecteur disquette, c'est un TEAC dedans, et il est branché sur le bus quasi, et non pas sur un bus disquette standard. Ce qui permettait d'économiser un câble et de la place.
Pas faire comme dans les PC où tu as 1000 câbles qui débordent.
Alors là, on en est maintenant sur le SMAQI 130, c'est le fer de lance, on va dire, de la gamme SMAQI. En tout cas, le pinacle, c'est au moment où on avait encore des machines 100% propriétaires. Et ça, c'est des machines qui ont été faites à plus de 1500 exemplaires, je crois. 2000. Et il y en avait dans quasiment toutes les écoles de Suisse romande. C'est vraiment les machines que tous les étudiants, les gens maintenant qui ont 40 et 50 ans, ont eu entre les mains quand ils étaient à l'école chez nous. On a le même type de boîtier, très résistant, c'était livré toujours avec des écrans, c'est l'écran d'origine qui était livré avec Samtron. Et là, je vais te montrer un petit peu le système d'exploitation. Donc on est sur un système d'exploitation 100% graphique. Tu as possibilité d'avoir une ligne de commande comme sur Amiga, mais c'est pas elle qui prend la main. Donc vraiment, au démarrage, il va d'abord contrôler... je vais te le faire démarrer, ce sera plus simple. Là, première chose qu'il fait, il vérifie la mémoire. Alors tu remarqueras que tous les textes sont en français. C'est une machine qui n'existait que en français. Il a détecté la carte graphique couleur, parce que là j'ai une carte graphique additionnelle. Il cherche le système d'exploitation, il l'a trouvé. Je ne sais pas si tu as vu, c'était un peu rapide, mais il a d'abord cherché le système sur le réseau. Il n'a rien trouvé sur le réseau, donc il est parti sur le disque dur. Et là, il démarre le système SMAQI 11, qui s'appelle PsiOS. Psi, parce que Epsitech, la société qui a créé ça. Et puis en référence avec la lettre Psi dans l'alphabet grec. Donc là, on en arrive directement à ce qui sert de bureau pour le SMAQI. Il n'y a pas de bureau à proprement parler. On a toujours des fenêtres qui sont ouvertes. La première fenêtre qui est tout en haut, c'est la fenêtre qui va lister tes unités. Là, j'en ai deux. C'est le disque dur, le lecteur disquette. Par défaut, il m'a ouvert une fenêtre supplémentaire qui contient le répertoire de base, on va dire la racine du disque dur. Donc si, par exemple, maintenant, je vais aller voir ce qui se passe dans les programmes, je peux cliquer ici. J'ai une autre fenêtre supplémentaire qui s'ouvre en dessous. Si maintenant, je veux ouvrir encore une autre fenêtre, comme SMAQ, par exemple, ici. Hop, j'ai une quatrième fenêtre.
Ton écran va se splitter de fenêtre en fenêtre.
C'est pas des fenêtres qui se marchent les unes sur les autres. La raison, c'est parce qu'ils ont remarqué que ils n'avaient pas les capacités au niveau du CPU pour le faire correctement. Ils ne voulaient pas avoir une carte graphique dédiée. Là, j'en ai une, mais à la base, il n'y avait pas de carte graphique dédiée. Donc, ils ont cherché à faire au plus simple. Alors, tu vas me dire, comment est-ce qu'on fait pour voir ces programmes? C'est très simple. Ça ressemble énormément à ce que fait l'Amiga. Si je prends, par exemple, le programme qui s'appelle Dessin, ici. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a ouvert un grand écran qui a pris toute la surface de l'écran. Et ici, en haut, je suis passé sur l'écran virtuel numéro 2.
Ah, on est déjà dans les écrans virtuels alors qu'on est en 1992, c'est ça?
C'est ça.
Mais depuis le premier.
Le Smackisson le fait déjà, même le 8.
D'accord.
L'OS n'a pas pratiquement pas changé. Et tu vois, maintenant, si je veux revenir à mon bureau, je fais que cliquer ici. Et j'ai mon bureau qui apparaît. Et c'est même plus fort que ça, parce qu'en réalité, si maintenant je quitte ce programme ici, je vais pouvoir lui changer sa résolution. Je vais pouvoir dire, je vais le mettre en plus petit, par exemple, ou en plus grand, peu importe. Si je reprends D104.code maintenant, je le relance. L'écran a changé de résolution, tu as vu, je suis plus petit maintenant. Et je gère des résolutions, je vais passer de l'un à l'autre, des résolutions virtuelles, comme sur Amiga, quand tu passes d'un écran à l'autre. C'est assez génial, hein, quand même. Et évidemment, c'est multitâche, donc tu peux avoir plusieurs programmes qui fonctionnent en même temps. Et ils ont fait un petit truc, si tu vois ce boîtier qui est ici, là, qui s'appelle Smacky. En fait, ce boîtier contient les ROM du Macintosh. Et si j'exécute maintenant ce programme, j'ai le système d'exploitation du Mac qui fonctionne, complètement intégré, mais en multitâche. Donc j'ai toujours mon Smacky qui fonctionne derrière.
D'accord, c'est comme si tu avais lancé un émulateur.
C'est ça. C'est, imagine ShapeShifter sur Amiga, c'est la même chose. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les ROM dans un boîtier parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème de copyright avec Apple, ils ne voulaient pas se faire rapper dessus. Mais en réalité, ils auraient très bien pu mettre les ROM dans un fichier sur le disque dur, comme fait ShapeShifter. Et j'ai possibilité, là, sur une machine en 1992, d'avoir un Macintosh complet en système 7 qui me permet d'exécuter tous les programmes du Macintosh, d'échanger des programmes avec le Smacky tout en ayant le Smacky qui fonctionne derrière avec mes programmes ouverts. C'est plutôt balèze, hein.
C'est assez puissant. Pour l'époque, effectivement, on voit qu'il y a une fonctionnalité, une puissance qui est intéressante. Du coup, c'est comme si tu avais acheté, quand tu achètes un Smacky, tu achètes quelque part un Mac aussi.
Ils le vendaient, ils ont fait énormément de ventes comme ça, effectivement. Il y a eu une demande aussi qui était assez grande de la part des utilisateurs de pouvoir utiliser des applications Macintosh. Et la même chose qu'il y a eu sur Atari à l'époque avec...
Avec le Jackintosh.
Voilà, ouais, c'est ça. Ben là, ils l'ont fait à cette échelle-là.
On peut personnaliser certaines choses de l'OS qui sont parfois surprenantes. Ici, je me suis amusé tout à l'heure. Si on le redémarre, il va nous donner sa petite routine, il vérifie sa mémoire. Ça, c'est normal. Il va chercher son système ensuite. Il met un joli message qui me dit « Merci Laurent de m'allumer ».
Ok.
Les écrans de démarrage sont aussi paramétrables. On peut y faire dire à peu près n'importe quoi.
Alors, on termine le tour. Là, on est sur le dernier pan des machines.
L'avant-dernier, en fait, parce qu'on a encore deux étapes. Là, j'ai dit avant, le 130 était la dernière machine physique complète. Ils sont arrivés à un moment donné où, effectivement, ça coûtait trop cher. Ça faisait peut-être plus forcément de sens de développer une gamme complète dans le sens que le PC et le Mac avaient clairement pris le pas sur le marché. Non, on est en 1994, hein, on en est à la fin de la période de l'Amiga, de l'Atari. On était déjà en train de se dire que l'Amiga, ça n'existait plus et le PC avait gagné. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une carte que tu peux voir ici, qui est une carte PCI, qui contient en fait l'intégralité d'un Smacky. Donc on a un processeur 68040, on a de la RAM, on a les ports réseau, c'est des ports réseau propriétaires. Et ça permettait aux gens d'avoir des Smacky ou une compatibilité avec le Smacky tout en prenant un PC à la place. Il faut savoir, c'est une chose que je n'ai pas précisé avant, que Epsitech est très très connu en Suisse aussi pour avoir créé un logiciel de comptabilité qui est toujours utilisé maintenant, qui s'appelle Crésus, qui a démarré sa vie sur les Smacky. Et à un moment donné, les gens, pour continuer leur comptabilité, il fallait qu'ils continuent avec Crésus. Donc c'était un moyen de conserver la compatibilité. Quelque part, le Smacky en lui-même, ils s'en fichaient, c'était avoir Crésus qui permettait d'avoir ce logiciel qui se lançait là-dessus. À l'EPFL, ils l'ont utilisé énormément pour garder l'accès aux interfaces, toujours avec la possibilité de booter en réseau, ce genre de choses. Et là, tu as l'intégralité du Smacky qui fonctionne dans une fenêtre, mais sous Windows. On a un Windows 2000 ici qui fonctionne.
Oui, carrément, c'est un Windows.
Voilà. Et puis l'étape finale qui a été réalisée, c'est purement logiciel, c'est ce qu'on voit ici. En fait, ils se sont basés sur UAE pour créer un logiciel qui s'appelle Smacky Infini. Qui lui s'affranchit complètement de la nécessité d'avoir une carte, on émule le CPU complètement en logiciel, la puissance des ordinateurs, des PC à l'époque permettait de le faire. La seule problématique c'est qu'on perd tous les ports qui sont physiques, donc on n'a plus accès au réseau, on n'a plus accès à ce genre de choses. Ce qui fait que c'était plus, en fait ils ne l'ont pas réalisé pour eux à l'EPFL, c'était plus un cadeau entre guillemets fait aux clients pour dire voilà, vous nous avez soutenus pendant toutes ces années, maintenant vous pourrez continuer d'utiliser à jamais vos logiciels du Smacky, d'où l'idée d'appeler ça Smacky Infini. Et là, le petit clin d'œil qu'on a fait ici, c'est Benoît qui a réalisé le boîtier. En fait, il a réalisé un boîtier sur la même technique, donc la tôle pliée et peinte, pour faire un boîtier qui ressemble au Smaky. Il l'a appelé Smaky 186, mais en fait, ça n'existe pas du tout. C'est juste pour le clin d'œil. Là, on est vraiment sur purement du logiciel.
Pour compléter encore, la société Psytech, qui à l'époque développait ces machines, aujourd'hui travaille encore dans les logiciels de gestion, donc... c'est la comptabilité, et ils ont porté plusieurs logiciels sur PC, des logiciels de Smaky qui ne supportent plus maintenant, mais qui sont encore téléchargeables, dont les logiciels de traitement de texte qui étaient excellents sur Smaky. Ils ont duré très longtemps, les gens les ont utilisés encore pendant beaucoup d'années parce qu'ils les appréciaient. Et au-delà de ça, ils ont fait quelques jeux vidéo. En l'occurrence ici, on voit Pi qui est ici. C'est un jeu qui est apparu sur Amiga. Daniel Roule avait, comme elle l'avait programmé, les premiers jeux sont des jeux pour des petits-enfants. Puis plus les jeux évoluent, plus on voit qu'ils sont destinés à des enfants plus grands. Parce qu'il créait le jeu, il les faisait tester à ses enfants. Puis à mesure que ses enfants grandissaient, les niveaux des jeux, ils augmentaient.
Ils évoluaient, oui.
Ils évoluaient, voilà.
Pour que la difficulté soit progressive.
Oui, exactement. Et puis après, quand le Smaky s'est un petit peu arrêté... et puis commencer à s'oublier, il a commencé à aller travailler sur PC. On a un certain nombre de jeux Bluepi qui travaillent sur PC.
Alors on va un peu plus loin dans la salle. C'est un circuit de train ?
Alors c'est un circuit de train électrique, effectivement. Encore une fois, Daniel Roux, lui c'est un passionné de train, de Lego, il fait beaucoup de choses dans sa vie. Et il se disait, moi mon train électrique, je trouverais ça marrant de le commander avec mon Smaky. Alors il a développé un logiciel pour commander son train électrique, il a développé des interfaces qui permettent de commander les aiguillages, les trains en eux-mêmes. Ils permettent aussi la détection des trains sur le circuit. On peut programmer l'ordinateur pour lui créer des automatismes qui font rouler les trains tout seuls. Il y a énormément de choses. Et ça, c'est quelque chose que je connais vraiment que sur Smaky, par contre.
C'est resté un grand enfant, quelque part.
Alors, c'est un enfant adulte, oui. Mais on est nombreux à être des enfants dans des corps d'adultes. Et d'ailleurs, maintenant, il va reprendre sa retraite au mois de mars l'année prochaine. Et il dit qu'il hésite aussi à recommencer à faire quelques jeux vidéo et quelques trucs rigolos. On verra.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir, exactement, oui. Okay. Et pour tenir du Smaky, c'est que c'est une machine qui aurait pu exploser les ventes commercialement parlant. Mais ils n'ont jamais voulu ça vendre commercialement parlant. Ça a toujours été éducatif, ça est resté éducatif. Et de ce fait-là, c'est complètement différent de tout ce qu'on connaît, en fait. Et ils ont fait, voilà. Moi, je dis souvent qu'ils étaient une petite poignée de gens au milieu d'un local à Lausanne. Et puis, ils faisaient 10 fois mieux ce que faisait Apple à côté. Juste parce qu'ils avaient des idées, ils avaient les mains complètement libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis, ils se marraient bien, quoi.
Interlude de Jacques Nick 2000, donc c'est une démo technique sur Jaguar. Donc la Jaguar sur Atari. Passons à l'agenda.
Jingle.
L'agenda. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Qu'est-ce que nous avons ?
Des rencontres professionnelles du logiciel libre, payant sur inscription. Ça se passera le 28 juin, hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon.
Atelier libère ton smartphone. Marre que ton téléphone n'ait plus de place, de la lenteur suite à la dernière mise à jour, de toutes ces notifications, des pubs. On entend souvent parler du numérique responsable d'obsolescence programmée, d'accaparement de données privées, d'économie de l'attention. Il suffit souvent de quelques modifications simples pour se faciliter l'existence. Au cours de cet atelier, Nico nous vous partagera ses connaissances et de retour d'expérience, puis facilitera les échanges pour répartir avec des nouveaux savoirs et des trucs et astuces. Et si tel est chargé, on pourra faire les mêmes ensemble. Sur inscription, jeudi 30 juin de 18h30 à 20h30, Valence Atelier Libre, 13 bis rue Montplaisir, 26 000 Valence.
Du lien et des liens ?
Une visualisation des 50 sites web les plus visités dans le monde.
FMPEG, Buddy ou outils en ligne pour vous aider à construire la ligne de commande pour FFmpeg.
Un site listant les alternatives libres aux applications propriétaires.
Les fiches citoyens d'Anticor, les how-to pour ceux qui veulent exercer leur droit d'obtenir de la transparence, notamment comment saisir la CADA ou la HATVP.
La Haute Autorité pour la Transparence pour la Vie Publique.
D'accord.
Le projet HNode veut identifier les matériels qui fonctionnent avec des systèmes entièrement libres.
Une liste de logiciels libres pour faire de la 3D.
Et enfin, une bidouille pour commander un joystick par téléphone avec le DTMF, comme à l'époque avec Hugo Délire.
Waouh ! Attends, j'appuie sur mon... Astrologique, qui frotte la boule. Sysadmin. On n'avait pas des nattes, mais on des vraies coupes de cheveux, quoi.
Libriste, un PC sans Windows, c'est comme un gâteau au chocolat sans moutarde.
Nerd, dans Astérix, IPFix, il gère les noms de Dolmen.
Codeur, il me faut une méthode plus terre-à-terre. T'as testé la méthode argile ?
Électronicien, mieux vaut ne pas bouger en dessoudant ce support. Il faut rester stoïque.
Procrastinateur, il y a beaucoup de choses à faire. Quand est-ce qu'on fait ça ?
Eh ouais, bah là on a fini parce que on va se faire virer du studio. On est en retard.
Il est moins une.
Non. Alors ça veut dire que j'en ai encore une minute pour vous redire, amis auditeurs, de nous retrouver sur underscore.radio.fm, également en rediffusion samedi prochain sur Radio Méga, radiomega.com aussi également en podcast. Et sinon, la dernière émission, c'est la semaine prochaine de la saison.
Non, en fait, on n'a pas une minute parce qu'après, il faut que j'exporte et tout.
Ah oui. Bon, alors, on vous souhaite une bonne journée. À
bye
très
bye.
Bientôt. Bye bye.
Bye bye.
Ciao.